Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, nous entrons dans cette période où entrer dans un cinéma, eh bien, ça fait du bien, ça aère. Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. On va parler de films qui sont sortis le 7 juin et le 14 juin. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Alors, le gros morceau quand même de l'émission, c'est le dernier film de Clapiche.
Ce qui nous lie, oui. Et je vous parlerai également d'amour avec Serious Game, le premier film de Pernia August, un film suédois.
À noter qu'on a pu rencontrer Cédric Clapiche, donc on écoutera une interview. Et puis on ne se contentera pas que de ça, puisque le thème du film, c'est les vins de Bourgogne pour parler de la fratrie. Eh bien, on fera un blind test spécial vin au cinéma, ce qui n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas énormément de films autour du vin. Et toi, Manu ?
Eh bien, je vais vous parler du nouveau film de Barbet Schroeder, Le Vénérable W, le bouddhiste Wiratu. Mmh. Et puis du nouveau Aung San Suu, Le Jour d'après.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de The Wall, dernier film de Doug Liman. C'est Cinérama qui débute.
Et maintenant ?
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Le Bouddha se situe souvent au-delà du bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal. Cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. Ne prenez pas le mal à la légère en disant « il ne m'atteindra pas ». Même un pot d'eau finit par se remplir de gouttes de pluie. De même, l'innocent, absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal.
Ah, cette sagesse bouddhique.
Oui, enfin, on va plutôt parler d'un méchant bouddhiste, en fait, aujourd'hui. Hein. Alors, le premier mérite, hein, ce n'est pas le seul du Vénérable W, hein, qui est édifiant, est déjà de nous éclairer sur la situation préoccupante de la Birmanie, où les ethnies musulmanes sont depuis longtemps victimes de violences. Moi, je n'étais pas vraiment au courant, et je crois que c'est depuis la fin des années 70. Alors, certains vont même jusqu'à évoquer un véritable génocide. Alors, en partant de ce constat alarmant, hein, qui date donc depuis quelques décennies, le film de Barbet Schroeder dresse le portrait effarant d'un moine bouddhiste, le célèbre Wiratu, qui attise la haine et le rejet des musulmans avec un manichéisme proprement hallucinant. Alors, d'autant plus hallucinant que l'idéologie de Wiratu est en contradiction avec la religion bouddhiste, hein, qui est quand même pacifique et fondée sur la tolérance, la non-violence et l'amour de son prochain. Alors, n'y voyez pas un brûlot contestataire pointant du doigt une organisation religieuse qui au final se révélerait plus ouverte que les autres. Le propos du cinéaste n'est pas là, dans une vision unilatérale de la religion qui pourrait s'apparenter à de la mauvaise foi. Il donne par ailleurs la parole à d'autres bouddhistes fustigeant la pensée de Wiratu, mais intelligemment Schroeder laisse disserter Wiratu sans intervenir ou lui poser des questions dérangeantes. Alors cette apparente neutralité de ce dispositif n'en est que plus efficace pour pénétrer au cœur de ce discours xénophobe, ultranationaliste et haineux. Avec le Vénérable W, Schroeder clôt ce qu'il a lui-même nommé la trilogie du mal, après Général Idi Amin Dada, autoportrait, qui datait de 1974, et L'avocat de la terreur, qu'il a réalisé en 2007. Voilà. Bon, rétablissons quand même une vérité que personne ne pourrait contester. L'avocat de la terreur évoque la personnalité douteuse de Jacques Vergès, qui a donc défendu Klaus Barbie, mais aussi des inconnus quand même plus présentables. Hein. Je crois que c'était lui qui avait défendu Omar. Alors au-delà de son cynisme, son regard cruel et injuste sur le monde, Vergès fait son métier. C'est pas vraiment, on va dire, un criminel de guerre ou vraiment.
Défend.
C'est une personnalité plus ambiguë par rapport à Wiratu. Voilà, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Wiratu se situe peut-être, lui, d'ailleurs, au-delà du mal. Son discours qui confine à la folie défie la raison. On reste totalement bouche bée devant les pauvres arguments qu'il avance. Alors peut-être qu'il ne joue qu'un jeu cynique comme le ferait un politicien véreux, mais il semble, du moins c'est l'impression que donne le documentaire, d'être complètement illuminé. Alors obsédé par l'extinction des musulmans, hein, puisque c'est un peu ça qu'il dit. Hein. À l'instar de, on pense à une secte ou à des religieux extrémistes convaincus des bienfaits de leur pensée en action. Alors, Schroeder n'est pas un documentariste à la base, hein, mais avant tout un grand cinéaste abordant souvent ses films avec une distanciation, évitant de donner les clés aux spectateurs et apportant beaucoup d'ambiguïté au sujet traité. C'était le cas de films comme Mort, La Vallée ou Tricheur, qui traitaient de problèmes sociétaux, hein, la drogue, l'utopie, hippie, ou la dépendance au jeu d'argent sous un angle naturaliste à l'intérieur de la fiction. Il a réalisé aussi d'excellents thrillers hein, comme hollywoodien, comme Jeune femme partage appartement ou L'Enjeu. Et puis un magnifique portrait de Charles Bukowski, l'oublié Barfly avec Mickey Rourke. Alors on sent qu'avec son nouveau film, qu'il n'a pas pu filmer ce qu'il voulait, certainement bridé par les autorités en place, d'où le recours à beaucoup d'images d'archives, alors dont un reportage de 78 signé TF1 sur la situation en Birmanie. Alors ce passage est assez fascinant d'un point de vue historique et ou sociologique, car il montre à quel point la télévision française populaire pouvait se montrer pertinente tout en étant assez, on va dire, pudique. À l'époque, TF1 prouvait à 16 heures, pouvait jouer un rôle pédagogique désormais attribué à Arte.
Non, c'est assez. Il y a 40 ans.
Ouais, il y a 40 ans, mais c'est assez troublant de voir ce documentaire quand même sur une situation préoccupante et puis assez moderne. Enfin, alors le film s'ouvre aussi par un splendide travelling latéral filmé au ralenti, signifiant bien que l'auteur n'a rien perdu de sa maîtrise formelle et que nous sommes bien face à un film de cinéma, parfois démonstratif mais indispensable. Alors cet aspect donc démonstratif n'est en tout cas pas lié à la mise en scène, hein, mais plutôt à la personnalité même de Wiratu, qui est dénuée de la moindre ambiguïté morale. Un regret néanmoins, c'est la voix off de Bulogier, un peu trop littéraire et chichiteuse à mon goût. Et d'ailleurs, la bande-annonce, elle ne donne pas forcément envie d'aller voir le film.
Alors, on va parler de conflit, mais cette fois-ci, eh bien, c'est le conflit irakien avec The Wall.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
T'as le mur en visu?
J'ai surtout ton cul en visu, ma belle. Allez, vieux, raconte. Qu'est-ce que tu vois?
Il y a un souci.
Capitaine, testostérone en vue. Oui, effectivement. Dans Buried, on était en Irak, enfermé pendant tout le film dans un cercueil avec un civil américain confondu avec un soldat par des ravisseurs. Dans Lebanon, on continuait d'être claustrophobe, enfermé dans un tank israélien aux prises avec la violence des combats, à se demander comment tout cela pouvait finir. Situation d'impuissance, encerclement sont aussi à l'œuvre dans The Wall, qui contrairement au titre du film d'Alan Parker, adapté des Pink Floyd, n'a rien de symbolique. Le mur dont il est question ici est une ruine dans le désert irakien derrière lequel eh bien, se réfugie un soldat américain pris pour cible par un sniper. Un mur, ça n'a l'air de rien, ça paraît insignifiant hors du contexte, mais quand on nous vise dont on ne sait où, c'est un moyen de se replier, souffler, pourquoi pas, s'il reste des forces, eh bien, préparer une riposte, c'est tout l'enjeu de The Wall.
Tu l'as repéré? D'où est-ce qu'il tire?
J'en sais rien!
Si j'étais toi, je commencerais à discuter, Isaac.
Qu'est-ce que tu veux?
Je veux apprendre à te connaître.
Il me reste une balle.
Non! À la seconde où tu touches ce fusil, t'es mort!
C'est vrai, et quand ce sera fini, sa famille ne le reconnaîtra pas. Tu es déshydraté.
Comment ça va finir?
Par ta mort, tu vas te vider de ton sang.
La lunette est une extension de mon œil.
Tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis.
Non, je pète la forme.
La détente est une extension de mon poing.
1, 2, 3, 4, 5.
Le fusil est une extension de moi-même.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais t'éliminer!
Je sais où tu es maintenant.
Alors Marine, ça ne fonctionne pas surtout cette bande-annonce.
Ah, je suis atterrée.
Alors on l'entend, il y a deux soldats américains, mais un seul. Isaac parvient à se réfugier derrière le mur en ruine. L'autre est mal en point sans jamais être exclu de la situation cauchemardesque qu'on nous montre. Alors élément important, Doug Liman, à qui l'on doit La mémoire dans la peau ou l'excellent Edge of Tomorrow, place l'action en 2007 au moment où George Bush vient de proclamer la fin de la guerre d'Irak. Mais la fin de la guerre ne signifie pas le retrait des soldats et la fin des hostilités laisse aussi apparaître eh bien, les blessures de ceux que la guerre a changé. Ce sniper est un personnage de cinéma. Il n'est pas seulement là pour tuer, mais pour faire accoucher un récit. On ne sait pas vraiment qui il est, mais on l'entend parler à la radio avec sa victime. Il déclame des vers d'Edgar Allan Poe quand le soldat qu'il vise dans sa lunette se limite à citer le nom de Shakespeare sans donner ne serait-ce qu'une courte tirade. Le sniper oscille donc entre cruauté, celle d'un chat devant une souris, hein, ne voulant surtout pas lui donner le coup de grâce qui le priverait du plaisir de jouer, et une tentative d'expliquer à sa victime eh bien, les clés du conflit irakien qui n'est pas une guerre de libération, mais d'intérêt. Le soldat pense naïvement que le pays se reconstruit, hein, sa mission en fait quand il arrive là où il voit le sniper, enfin où il le voit pas d'ailleurs, où il en subit les conséquences, sa mission était de défendre des hommes qui se faisaient tuer par le sniper sur un chantier. Alors que nous savons eh bien, ce qu'il en est 10 ans après, le pays n'est pas forcément reconstruit, mais ça ressemble plutôt à une espèce de chaos organisé. Alors le film est sec, 1h30 et le générique apparaît. Le huis clos qui mêle ces deux soldats avec leur bourreau invisible est un thriller efficace. Doug Liman parvient à équilibrer action et explication de texte sur la manipulation de bouche dans un décor alors minimaliste, fait d'un mur en ruine, en plein désert. Ce qu'on entend dans la bande-annonce, Marine, enfin, et pas forcément...
Révélateur du film, enfin,
révélateur du film. Non, après, forcément, il y a des dialogues comme ça et ça passe par, des arguments guerriers. Enfin, parce
et
que
puis, il faut le voir en VO, surtout, j'imagine.
Il faut le voir en VO, ce qui n'a pas été mon cas et je le regrette un peu, parce qu'il y a aussi le son qui est très important. Il y a notamment la radio. Il parle avec la radio et s'il crie, c'est parce que lui est réfugié derrière le mur, le soldat, mais il y a son pote qui est un peu au-delà, il est obligé de lui crier, voilà, des choses. The Wall, film de Doug Liman, qui est déjà sur les écrans depuis le 7 juin.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Ah, enfin, on va passer à nos belles campagnes bourguignonnes, on va laisser l'Irak. Et on passe donc à ce qui nous lie de Cédric Clapiche. Un beau jour, Jean revient en Bourgogne, sa terre natale. Lui qui avait eu envie de parcourir le monde afin de fuir les terres de son enfance et sa famille de vignerons décide de revenir lorsqu'il apprend que son père est gravement malade. Après son décès, il doit faire face avec sa sœur Juliette et son frère Jérémy à de lourds problèmes de succession. Arrive alors l'heure des choix. Doit-il reprendre le domaine, rester en France, changer de voie ? Tout cela se conjugue avec de nombreux déboires au sein de cette fratrie de jeunes trentenaires puisque chacun doit réapprendre à s'apprivoiser tout en devenant adulte. Cédric Clapiche, qui n'avait jamais filmé que les villes, dans l'auberge espagnole, les poupées russes, les casse-têtes chinois et tous les autres, déplace sa caméra dans la campagne bourguignonne et s'attache à dépeindre un monde viticole en pleine mutation. Presque documentaire dans son souci du détail, le film suit également le passage à l'âge adulte de ses protagonistes avec finesse, une finesse que l'on doit en grande partie à des interprètes très crédibles, Pio Marmaille, François Civil et Anna Girardot, qui, je pense, trouve ici le meilleur rôle de sa jeune carrière. Résolument inspiré par la jeunesse, Clapiche signe un film bienveillant, conscient du monde qui l'entoure, coécrit avec Santiago Amigorena, son binôme de toujours à qui l'on devait déjà le péril jeune. Il aime ses personnages et nous le communique totalement en parvenant à capter quelque chose de très vivace dans les scènes de famille et de groupe, malgré quelques seconds rôles un peu caricaturaux. Pourtant, eh bien, ce qui nous lie n'est pas non plus un grand cru. Bien que le film soit juste et touchant quand il aborde le thème de la transmission, tout est un peu trop propre et trop longué. Cédric Clapiche a tourné pendant 1 an, il a cherché à être au plus près de la nature et son film, du coup, s'apparente un peu à une vision exhaustive du monde viticole. À vouloir trop bien faire, il réalise un film un peu linéaire et un peu ennuyeux. Alors, c'est un choix de mise en scène totalement assumé, hein, puisqu'il s'agit de montrer la renaissance à travers les saisons, mais la réalisation est parfois un peu trop monotone pour échapper à une impression de répétition et surtout à l'impression qu'on est juste devant un joli téléfilm.
Je trouve qu'il y a des passages de comédie qui sont très réussis.
Oui, c'est ça. Oui, dans les scènes de groupe, en fait, c'est assez spontané, c'est assez enlevé, il y a un bon rythme, mais souvent ça retombe tout de suite après. Ça dure pas très longtemps.
Après, parler du vin, c'est jamais facile. Et il se trouve qu'il le fait. Non, c'est vrai, c'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a un aspect documentaire. Enfin, il est question de la dégustation, il est question de ce qu'on fait du vin.
Du vin
puis,
bio.
On explique le Bourgogne avec les parcelles et ainsi de suite. Il le fait très bien, il montre les vendanges, enfin voilà, c'est la partie très très festive, enfin, et il y a plusieurs personnages de vignerons qui représentent assez bien entre celui qui fait plein d'argent, celui qui met plein de produits et puis celui qui essaie de faire de la biodynamie, enfin voilà, on retrouve tout cet éventail. Effectivement, ça prend un peu de temps de le mettre en place. On l'écoute, Cédric Clapiche.
Écoutons-le.
Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change.
On est parti en se disant on va parler du vin, et en fait on a parlé d'une fratrie. Donc le titre pendant le tournage c'était Le vin et le vent. Ça parlait du côté voyage de gens et les racines du vin. Et à la fin du film on s'est dit ça peut pas s'appeler Le vin et le vent ça. Et on a cherché un titre, et ce qui nous lie ça parle de la fraternité au sens large, de qu'est-ce qui rassemble les gens qui sont différents. Et
il y a la
lie de vin. Ouais.
un jour puis sans punir, et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil.
J'ai eu envie de faire le tour du monde.
Du soleil dans mes yeux.
Et voilà, j'ai fait le tour du monde.
Jean ?
Jean ?
C'est pas vrai.
Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles ?
4 ans et 11 mois.
C'est le seul produit qui vieillit bien. Il y a un peu le fromage et un peu la charcuterie, mais si vous posez la question, et un peu les êtres humains, donc c'était pour ça qu'on voulait faire le rapport. C'est pour ça aussi que c'est un produit humain, c'est que d'une part il y a quelque chose des personnes qui se mettent dans le goût, et puis voilà, le vin en Bourgogne, en tout cas ils essayent ça, que éventuellement ça sera meilleur 30 ans plus tard que quand on fait le vin. Donc ça c'est très particulier dans ce produit-là. C'était ça le point de départ, c'est que du coup on savait qu'en faisant un film sur ça, il fallait parler du temps qui passe, et on s'est dit on va mettre en relation à la fois les cycles de la nature en montrant les quatre saisons, et puis la vie d'une famille, et en parlant comme ça pendant un an de que deviennent ces trois frères et sœurs, on s'est dit on va voir que voilà, ils étaient enfants, ils sont devenus des jeunes adultes, ils vont devenir des adultes, ils vont devenir des parents, ils vont avoir eux-mêmes des enfants, et il y a de la même façon qu'il y a un cycle des saisons, il y a un cycle de la vie humaine, et il y a une évolution, et on voulait voilà, parler du temps qui passe en mettant en parallèle la nature et les êtres humains.
Putain Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui il est là, il vient.
Quoi, moi quoi, mais qu'est-ce que tu connais à ma vie toi?
Ah, hein? Parce que là on est d'accord, je connais rien de ta vie.
Raisin rouge pour médaille.
J'ai assez vite vu que Pio Marmaille et François Civil formaient un couple très fort. Ensuite, on a cherché quelle est l'actrice qui pouvait aller avec eux. Et puis, il s'est passé ça avec Anna Girardot. C'est-à-dire qu'on a dû voir une vingtaine d'actrices. Et il n'y avait vraiment que Anna qui arrivait à exister. Parce que ils sont deux personnalités très fortes, François et Pio. Et du coup, Anna, elle arrivait à se mettre au niveau. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a eu ce trio-là. Et ensuite, nous, puisqu'on a filmé pendant un an, à chaque fois on réécrivait le scénario avec Santiago et on utilisait beaucoup ce que nous apportaient les acteurs, et notamment François Civil et Anna Girardot. Il y a beaucoup de choses de ce qu'ils jouaient qu'on a intégré dans le scénario, et cette idée d'épanouissement ou de comment chacun devient adulte pendant le film, c'est presque venu d'eux en fait, à la fois pour François Civil et pour Anna Girardot.
Enfin, je me dis que je suis plus parti pour fuir.
Mais t'es revenu.
Quand le voyage m'en l'a.
Le monde, c'est comme le vin.
Ce qui nous lie est là.
Faut du temps.
Ça donne pas envie de rester là, tout ça ?
Et c'était volontaire, bon, qu'ils deviennent orphelins un peu jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont entre 25 et 30 ans. D'une part, on voulait parler de cette jeune génération de vignerons, parce qu'elle existe vraiment partout en France, sans doute. Que du coup, ils font pas du vin comme leurs parents, ils sont vraiment dans la modernité. Et c'est vrai que le fait de partir. Pour nous, c'est presque comme un conte pour enfants. Quand Jean parle du meunier qui est mort et qui donne son moulin à l'aîné et tout ça, c'est que, comme dans un conte pour enfants, cette histoire d'héritage, c'est ancestral, quoi. C'est quelque chose qui est... voilà, il y a ce truc de transmission qui existe depuis toujours, quoi.
Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles.
Quoi, j'ai pas entendu. Wow, c'est pestifié, là, partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles.
On va se boire un coup.
C'était Cédric Clapiche que nous écoutions parler de Ce qui nous lie, film qui sort le 14 juin, ce qui nous donne l'occasion de jouer très vite un blind test spécial vin au cinéma. C'était pas si facile. Premier extrait.
Ça, c'est Thierry, mon ami Thierry. Et moi, je m'appelle Bruno.
Bonjour.
Allez.
Bonjour.
Ah, je vous explique le principe. Pardon ?
Oui, quel principe ?
Bah, justement, j'allais vous le dire. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon.
Mmh. Et chaque année, on change de route.
Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est.
Ma chance.
Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin.
Bon, vous voulez un verre de vin, quoi?
Mais volontiers.
Hein? Alors,
qu'est-ce que vous nous proposez?
J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur.
Je vais reprendre une chasseur.
T'es sûr? Parce que la route est longue. En 5 salons, on n'en a terminé aucune, alors pas faux.
La route des vins à l'intérieur d'un salon, c'était facile.
Oui, Saint-Amour.
Voilà.
Avec Poulvard.
De Benoît Delépine et Gustave Kervern, qui font une. Bon, la route de vin, donc à l'intérieur du salon, mais au bout d'un moment, ils vont faire la vraie route des vins, et ça va rapprocher le père et le fils.
Et le fils, voilà. Ouais.
Deuxième extrait.
Vous avez goûté son vin?
Oh, oui. L'horreur absolue.
Mais je le recommande pour se débarrasser de la peinture sous les ongles.
Vous vous y connaissez?
Je suis plutôt un buveur de cognac. Je suis trop impatient pour aimer le vin. Si je veux me saouler, je ne veux pas attendre toute la nuit. Goûtez ça. Il est meilleur.
Mais c'est extraordinaire. On dirait un Bordeaux. Il laisse une sensation proche du velours.
Bien, bien. Je vois qu'on s'y connaît un peu en vin.
Là-bas, dans la Napa, on est connu pour le rouler en bouche et après le recracher.
Ça a l'air sympa.
Il est produit ici, sur le domaine.
Le coin perdu, j'en doute.
Ça a été trouvé, Manu.
Bah, c'est une grande année de Ridley Scott, une curiosité exotique, je dirais, par rapport à le reste de sa filmographie.
Avec Russell Crowe, dont on entendait la version française qui n'est pas sa voix habituelle, me semble-t-il. Troisième extrait.
Essaye de redevenir un type plein d'humour, d'accord? Le gars que t'étais avant de partir en vrille.
D'accord.
Tu te rappelles de lui? Tout le monde adorait ce gars-là. Et n'oublie pas, ton roman va sortir à l'automne.
Ah, vraiment, c'est passionnant. Et il s'appelle comment?
Bon, viens par ici. Viens là. Ne fais pas du sabotage. Si t'as envie de te comporter en je m'en foutiste, c'est ton droit. Mais viens pas me saboter mon
temps. Oh, à vos ordres, mon capitaine, d'accord.
Et si elles veulent boire du merlot, on boira du merlot.
Non, si quelqu'un commande du merlot, je m'en vais. Il n'est pas question que je boive un putain de merlot ce soir.
D'accord, d'accord.
Non.
Relax, Max. Mon Dieu, pas de merlot. T'as apporté ton Xanax?
Alors, ça n'a pas été trouvé. Je pensais que ce serait trouvé, justement, le film américain. C'est un film américain.
Oui, c'est un film d'Alexander Payne, je crois.
Oui.
Non,
c'est ça. Oui.
Et Sideways. Sideways, oui, voilà. Tout à fait. Oui.
Avec Paul Giamatti et Thomas Haden Church, qui a été le méchant de Spider-Man 3. Lui, c'est un bon vivant. Et puis l'autre, un écrivain pessimiste, mais grand connaisseur de vin, qui refuse donc de boire du merlot.
Et il y avait Virginia Madsen dedans aussi.
Quatrième extrait.
Il y a un côté terreux, hein, qui me déplaît pas d'ailleurs. C'est boisé, mais ça je m'y attendais, mais il y a une petite note de fruit qui pousse, toute droite, là, au milieu de tout ce gras. Ah, il se tient pas mal, hein.
Il se tient tout seul, vous voulez dire? Là où je bosse, certaines cuvées rivalisent sans problème avec les grands Bordeaux.
Combien vous le vendez, ça?
$180.
Vraiment? Tout de même? C'est pas du pétrus, hein? Non.
Et toi, qu'est-ce que ça te dit?
Non, j'aime bien la touche florale finale. Un petit goût de rose fanée.
Est-ce que t'as trouvé la rose fanée là-dedans, toi? On n'est pas en Côte de Nuit, on est en Californie. C'est pas un vin romantique, c'est Coppola, Valkyrie. C'est pas très délicat. Un peu brutal.
Non, c'est brutal, non. C'est trop pas quand même.
Moi, je suis d'accord avec Martin, il y a de la rose fanée. Enfin, des fleurs, en tout cas. Je supporte pas l'idée de la pensée unique.
Vous vous égarez, ma petite Alice. Que Martin n'ait pas de palais, c'est regrettable. Puis son pédigré, mais si vous non plus, alors là... Je vais m'inquiéter pour mon petit-fils, moi.
Parce que vous attendez un bébé?
Non, pas que je sache. C'est une obsession chez Paul.
Faites-moi penser à vous prêter l'almanach de la biodynamie à toutes les périodes propices à la fécondité. C'est
gentil, mais on baisse comme des castors, nuit et jour, et tous les jours que le bon Dieu fait.
Alors, le père relou, c'est Nils Arilstrup. Donc, que vous avez pu reconnaître, c'est « Tu seras mon fils » de Gilles Legrand. Un film qui se déroule dans le Saint-Émilion, voilà, opposition père-fils.
J'ai entendu parler.
Et normalement, c'était Gérard Depardieu qui devait interpréter le rôle, et je pense que les spectateurs s'en sont bien sortis. Dernier extrait rapide.
Non, le patron n'est pas encore arrivé.
Oh, bah, ça ne m'étonne pas avec le carambolage qu'il y a eu sur le périphérique.
Ah bon?
Ouais, alors, comment il va être cette année?
Ah, tu vas être meilleur que l'année dernière. Hein? Il a de la cuisse. Tu connais rien, Paul. Il aura moins de malice.
Camadoul, comment il est? Dis-nous-le.
Bah, tu vas le voir, il va arriver, là.
Bah, t'as pas écrit ta comtesse?
Bon, si, voyons.
Alors... On était amis, dis-nous-le.
Qu'est-ce qu'on dit?
Oh. Allez,
pas briller.
Voilà, c'est un vieux film, effectivement. Un film de 78, et bon, généralement, il est comment cette année? Goût de banane, il a un goût de banane, de pêche, je ne sais quoi. Le Beaujolais nouveau est arrivé.
C'est un gros nanar.
Oui, c'est un gros nanar. Avec Jean Carmet, Michel Galabru. Et ça, je fais ce blind test spécial vin. On passe à la suite parce qu'on est très pressé.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Thank you.
Alors ça donne envie, hein. Non, mais c'est pas si triste que ça en fin de compte. Hein. Faut quand même pas exagérer.
Ah, c'est dans la bande-annonce.
Voilà. Bon. Alors le jour d'après, qui évidemment n'a rien à voir avec le film catastrophe de Roland Emmerich, est un nouveau petit chef-d'œuvre de la part de l'auteur d'Un jour avec, un jour sans. L'art de se renouveler dans la continuité, voire une certaine conformité, sied à merveille à cette chronique sentimentale douce amère, à l'émotion de plus en plus intense au fur et à mesure que le film évolue. Alors le principe du marivaudage articule en fait une histoire drôle et très subtile. Aréon vient d'être recrutée en tant qu'assistante dans la maison d'édition indépendante de Bongwan. L'ancienne employée était la maîtresse de l'éditeur écrivain. Elle lui a toutefois envoyé une lettre d'amour que l'épouse de Bongwan a fini par découvrir par hasard. Furieuse, elle se rend dans les bureaux et s'en prend violemment à Aréum, qu'elle confond avec la maîtresse de Bongwan. Alors un sujet classique qui pourrait se transformer en vaudeville basique, mais qui atteint ici des sommets d'émotion. Alors tout est une question de style, et sur ce plan, le jour d'après, outre un noir et blanc magnifique, est une leçon de mise en scène épurée. Le coréen est un maître du plan séquence, étirant les plans fixes jusqu'au point de rupture des relations entre les personnages. Ce qu'il parvient à tirer de ses comédiens, hein, à jeun ou alcoolisés, au choix, est exceptionnel. Les échanges de regards, le flot de paroles et brusques mouvements incontrôlés deviennent des éléments de fiction très incarnés. Et au risque de me répéter par rapport au précédent, parce que je pourrais presque écrire la même critique à chaque fois, c'est un peu le problème, il n'y a rien de poseur chez ce cinéaste qui filme ce qui doit être filmé dans des lieux extérieurs et très étrangement vides comme chez Antonioni, où des apartés exigus m'attirent à laisser la parole se propager. Alors une parole directe et vivante que l'on pourrait assimiler à de la philosophie de comptoir, sans jugement péjoratif. On disserte beaucoup dans le jour d'après sur la vie, la création, l'amour, la foi, et c'est assez jubilatoire. Surtout là où Hong Sang-soo surprend, c'est dans sa capacité à se passer d'explications, de faire confiance à l'intelligence du spectateur et plus risqué à d'autres moments à la parfaite connaissance de ses propres films. Alors là où il y a encore quelques années, il s'appuyait sur des dispositifs séduisants mais voyants, genre filmer les mêmes histoires selon des points de vue différents, il ne cherche même plus à expliquer. Le jour d'après mêle passé et présent sans distinction et il faut bien une trentaine de minutes pour commencer à comprendre cette énième histoire d'adultère basée sur un quiproquo assez cocasse. Alors ensuite, le cinéaste joue au ping-pong avec ses propres films, ce qui n'est pas vraiment nouveau, mais ici, cette dimension, loin d'un dispositif creux, devient un élément de suspense, une manière d'égarer les fidèles de l'auteur, de les amener vers des fausses pistes, à l'instar d'un épilogue aussi drôle que bouleversant, renvoyant directement à la construction formelle d'un jour avec, un jour sans, pour s'en écarter radicalement. Alors c'est un peu difficile d'en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir. Cette notion de plaisir, d'ailleurs, de bien-être, vient immédiatement quand on évoque Hong Sang-soo. Ses histoires sentimentales, aux effluves d'alcool et d'humour décalé, ont beau se ressembler, on y replonge toujours avec bonheur, comme on s'entrait dans La Fontaine de Jouvence. Un peu comme du Romer, n'en déplaise à ses détracteurs. Hong Sang-soo est un conteur, un vrai. Avec trois fois rien, il parvient à passionner. Et puis, l'égérie du cinéaste, hein, enfin, depuis quelques films, Kim Min-hee est sublime. Tour à tour enjoué, espiègle, mélancolique, enfin, bref, elle transmet énormément d'émotions dans le film. Et elle est pour moi bien meilleure que chez Park Chan-wook, qui était déjà bien.
Voilà, Hong Sang-soo, film coréen, et maintenant c'est la Suède.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, avec A Serious Game. Stockholm, début du XXe siècle, Lydia, fille d'artiste, et Arvid, un jeune journaliste, tombent éperdument amoureux. Ils aspirent à un amour idéal, passionné, inconditionnel, mais sont bien obligés de se confronter à une réalité bien moins romantique. L'époque n'est pas au mariage d'amour, mais au mariage d'argent. Ils se résignent chacun à épouser un parti fortuné et avoir une vie rangée. Mais les aléas du destin sont tels qu'ils se retrouvent des années plus tard et ne pouvant lutter contre leurs sentiments, ils laissent à nouveau libre cours à leur passion. Écartelés entre la raison et les sentiments, ils vont devoir assumer leur choix et en payer le prix. A Serious Game est adapté du roman Le Jeu Sérieux du Suédois Hjalmar Söderberg, je ne pense pas que ce soit de la même famille, hein, par Pernilla August et coécrit par Lon Scherfig, à qui l'on doit l'excellent Une Éducation. Alors, petite parenthèse sur la réalisatrice Pernilla August, qui a quand même eu une carrière assez atypique. Hein. Elle a commencé comme actrice, notamment en donnant la réplique à Ingrid Bergman. Elle a même obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 92 pour Les Meilleures Intentions. Et elle a joué la mère de Anakin Skywalker dans les deux premiers épisodes de la saga Star Wars, enfin les deux premiers qui sont les 5 et les 6e. Bref, A Serious Game signe donc son passage à la réalisation et on peut dire que ce premier film, sans pour autant échouer à raconter une belle histoire, est beaucoup trop sage pour être marquant. Le romantisme et le romanesque de l'histoire auraient mérité un traitement beaucoup plus enlevé et beaucoup moins plat. Pourquoi user d'une réalisation aussi conventionnelle alors que l'histoire ne l'est pas du tout ? Pernilla August tombe dans le piège récurrent des films historiques, à savoir opter pour une réalisation extrêmement académique, alors que l'intérêt du film n'est pas la reconstitution, mais bien le dilemme dont souffrent les personnages, à savoir suivre la raison ou la passion. Le souci étant que malgré une interprétation sans faute et même plutôt charismatique, les personnages de base sont bien trop fades pour que l'on ait envie de suivre leur pérégrination durant deux heures. Les enjeux de leur vie amoureuse et sociale sont beaucoup trop loin des nôtres pour générer une quelconque empathie. Et la mise en scène d'un classicisme absolu achève de nous désintéresser totalement de la tragédie qui se déroule devant nos yeux. Dommage, avec moins de répétition et un peu plus de subversion, A Serious Game aurait peut-être pu être un chef-d'œuvre.
Voilà, mais en tout cas, c'est le film le moins apprécié de cette émission.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a prévu ? Des choses.
Le manoir, avec plein de youtubeurs dedans.
Eh oui.
Et puis Creepy, le nouveau film de Kurosawa.
Entre autres, à la semaine prochaine.